Le journal Anne-Laure Chouin, bonjour Anne-Laure.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. L'épidémie de coronavirus ne cesse de progresser, particulièrement sur le continent américain. Nous irons au Mexique dans ce journal où le gouvernement ne semble pas avoir pris la mesure des conséquences sociales de l'épidémie chez les plus pauvres.
Bamako reçoit aujourd'hui 5 présidents africains en délégation pour tenter de trouver une issue à la crise qui secoue le pays depuis le 5 juin. Le mouvement du même nom réclame le départ du président malien porté au pouvoir par un coup d'État en 2012.
Reportage également dans la ville de Portland aux États-Unis. Les manifestations anti-violence policière continuent et les habitants estiment qu'elles sont encouragées par l'attitude des agents fédéraux envoyés par Trump et censés faire revenir l'ordre.
En France, comment a évolué le discours d'Emmanuel Macron sur la jeunesse ? Analyse à l'occasion de la présentation du plan gouvernemental pour les jeunes aujourd'hui.
Et puis nous finirons ce journal avec une histoire d'hostie consacrée et détournée par un artiste contemporain dans une installation. L'affaire déchaîne l'Église espagnole. C'est en Amérique du Sud que le coronavirus progresse désormais le plus rapidement. On a beaucoup évoqué le Brésil, qui a enregistré hier une explosion des nouvelles contaminations et qui compte à lui seul plus de la moitié des cas du sous-continent. Vendredi dernier, pourtant, l'Organisation mondiale de la santé avait affirmé que la pandémie avait atteint un plateau dans le pays. De façon générale, les autorités brésiliennes n'ont pas mis en place les moyens d'une lutte efficace contre la pandémie, estiment les experts. En Bolivie et au Pérou également, la contamination fait rage. Et au Mexique, où le confinement n'est pas obligatoire, les autorités décomptent 350 000 cas et 40 000 morts dans le pays. Comme ailleurs, la crise sanitaire ne fait qu'aggraver la crise économique, le tout dans une relative indifférence du pouvoir mexicain face à la partie la plus pauvre de sa population, une population qui vivotait et qui se retrouve à présent plongée dans la misère. Une réalité visible notamment au guichet des prêteurs sur gage qui pullulent dans la capitale, Mexico. C'est un reportage de notre correspondante Alix Hardy.
Louise Vittel ressort d'une de ses boutiques. Ce serveur trentenaire, au chômage depuis le début de la pandémie, vient de se délester de bijoux en or, en échange de 1000 pesos, soit 40 euros.
Ce sont des chaînes et des bagues. Si je ne les mets pas en gage, je ne règle pas mon problème. Ma belle-mère est décédée pendant la pandémie, on ne s'y attendait pas. Ça se fait beaucoup ici d'aller au prêteur sur gage pour se sortir d'une mauvaise passe.
Selon les employés de ces guichets, les dépôts n'ont pas explosé avec le coronavirus. Mais beaucoup viennent faire estimer leurs objets de valeur, au cas où, face à une crise économique qui s'annonce terrible. Oscar San Roman, 65 ans, est déjà arrivé au bout de ses économies.
Je suis sans travail depuis 3 mois, je suis garde de sécurité. À un moment, j'ai épuisé toutes mes économies et j'ai mis en gage ce téléphone qui vaut 6 000 pesos, mais je n'en ai obtenu que 1 000. Je vais devoir chercher du travail, décharger des caisses de légumes au marché s'il le faut, alors que je ne voulais prendre aucun risque pour ma santé. Je vais aussi voir les associations, j'en sors là. Ils m'ont donné de quoi déjeuner, je pense qu'elles nous soutiennent bien plus que le gouvernement.
Obnubilé par sa volonté de ne pas creuser le déficit, le président Andrés Manuel López Obrador n'a pas mis en place de réelles mesures de soutien aux plus démunis. Une décision d'autant plus étonnante qu'il a bâti sa présidence sur ce slogan « Les pauvres d'abord ».
Une nouvelle étape dans l'escalade des tensions entre les deux premières puissances mondiales, la Chine et les États-Unis. Donald Trump a pris hier la décision rarissime de fermer le consulat de Chine à Houston pour des soupçons d'espionnage, notamment industriel, sans beaucoup plus de précision. Le consulat, l'un des 5 dont disposait la Chine aux États-Unis, doit fermer sous quelques heures. Cette fermeture est scandaleuse et injustifiée et constitue une provocation politique, a réagi Pékin, qui a menacé de représailles. Indifférente plus entre les deux pays qui commencent à en accumulé un certain nombre. 5 chefs d'État africains pour tenter de dénouer une crise, celle qui agite le Mali depuis le mois de juin. Les présidents du Niger, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Ghana se rendent ce matin à Bamako, où le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, est fortement contesté par la rue. Ibeka avait été porté au pouvoir par un coup d'État en 2012. Et depuis cette année, aucune crise sociale n'avait secoué le pays avec autant d'ampleur. Les manifestants réunis en une coalition appelée le mouvement du 5 juin demande donc son départ. Depuis Dakar, les précisions de notre correspondante dans la région, Théa Olivier.
La rencontre de haut niveau pourrait être décisive. 5 principaux présidents de la CDAO vont rencontrer le pouvoir malien en place, ainsi que le M5, mouvement hétéroclite de contestation. Ils demandent le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, au pouvoir depuis 2013, ainsi que de son régime. Hausse de l'insécurité, attaques djihadistes répétées, corruption, pauvreté, mais ce sont surtout les élections législatives contestées au mois de juin qui ont déclenché les dernières manifestations qui ont fait 14 morts, selon les Nations Unies. Au cœur de l'opposition, l'imam Mahmoud Diko, figure d'un islam rigoriste au Mali, il a reçu les ambassadeurs de France et de l'Union européenne ce lundi, suite à la venue d'une délégation de la CEDEAO la semaine dernière, dont le plan de sortie a été rejeté par le M5. Pourtant, des assouplissements sont à noter. La démission du président Ibeka n'est plus toujours d'actualité et une trêve de désobéissance civile a été décrétée jusqu'à la Tabaski, fête du mouton fin juillet. L'enjeu des négociations est grand alors que les pays voisins ont peur que la crise malienne, épicentre de l'insécurité au Sahel, ne déborde chez eux.
Théa Olivier. Voilà 2 mois désormais qu'à Portland, dans l'Oregon, des manifestants se rassemblent tous les jours pour dénoncer des violences policières, suscitant parfois, en particulier la nuit, des débordements violents. Nous vous en parlions hier. Pour mettre fin à ces débordements, l'administration Trump a décidé d'envoyer sur place des agents fédéraux pour protéger notamment le palais de justice. Il se trouve que les autorités de Portland sont démocrates et que la légalité de cette action de l'État fédéral interroge, d'autant que des vidéos montrent ces agents usés d'une violence a priori abusive. Pour beaucoup d'habitants, les tensions de ces derniers jours ont empiré à cause du comportement de ces agents. Le reportage de notre envoyé spécial sur place, Loïc Piala.
Les tramways circulent toujours et les joggeurs continuent de courir le long du fleuve Willamette. Portland n'a pas franchement les airs de la ville assiégée décrite par l'administration Trump. Mais à l'abord du palais de justice, aux murs tagués, les boutiques sont fermées, les vitrines protégées par des planches de bois. En face du bâtiment fédéral, un petit parc est devenu un campement où se retrouvent les manifestants comme Tommy.
On vient ici tous les jours et on reste à tenir des pancartes pour dire « Commencez à libérer notre peuple, arrêtez les conneries, faites les changements qui sont nécessaires. La vie des Noirs compte, le combat continue. »
Donald Trump dénonce la présence d'anarchistes violents, d'où le déploiement d'une centaine d'agents fédéraux. Pancarte Black Lives Matter à la main, Lisa, mère de 2 enfants, y voit une provocation.
C'est absolument atroce qu'il envoie sa Gestapo contre ses propres concitoyens. Je ne resterai pas assise sans rien faire. C'est pour ça que je suis là. Eux, ils n'ont rien à faire ici.
Pour Shiloh, le président américain a simplement fait de la loi et l'ordre son slogan de campagne.
Trump capitalise sur la situation et cherche l'escalade pour marquer des points politiquement. Il se fiche des habitants de Portland ou de la communauté noire.
Donald Trump a annoncé hier qu'il enverrait d'autres agents à Chicago, l'une des villes les plus violentes du pays.
Loïc Piala à Portland.
France Culture à 8h08, Anne-Laure Chouin, l'exécutif au chevet des jeunes. Le président était au château de Chambord hier pour parler de la jeunesse et le Premier ministre prendra le relais ce matin.
Oui, le gouvernement a fait de cette catégorie de population, notamment les moins diplômés et les plus touchés par la crise économique actuelle, un public prioritaire. Jean Castex doit donc préciser depuis Besançon aujourd'hui le contenu du plan pour l'emploi des jeunes promis par Emmanuel Macron. Plusieurs dispositifs ont déjà été évoqués par ce dernier, des dispositifs classiques qui reviennent en grâce comme des exonérations de charges ou des contrats d'insertion pour favoriser leur embauche, ce qui ressemble beaucoup aux contrats aidés supprimés par le même Emmanuel Macron. La jeunesse doit être la priorité de la relance économique du pays, a affirmé hier le président à Chambord. Alors, ce discours est-il crédible après 3 années de mandat qui ont vu les relations du président à la jeunesse évoluer ? Analyse avec Rosalie Lafarge.
Emmanuel Macron et la jeunesse en 2020, ça n'a rien à voir avec Emmanuel Macron et la jeunesse en 2017. En 3 ans, les choses ont bien changé, relève le professeur de communication politique à Sciences Po et président de l'agence MCBG Conseil, Philippe Moreau-Chevrolet.
En 2017, Emmanuel Macron incarnait la jeunesse. Il était le leader de la Startup Nation, donc des jeunes entrepreneurs. Il avait capté tout un dynamisme, notamment dans ce qu'on appelle la jeunesse progressiste. 3 ans après, on sent que son rapport à la jeunesse a changé puisqu'il ne l'incarne plus, il lui parle. Qui est très différent.
Et s'il lui parle, c'est d'abord parce que c'est nécessaire. 700 000 jeunes doivent arriver sur le marché du travail à la rentrée sur fond de crise économique majeure. Mais politiquement, c'est aussi pour qu'une autre catégorie de population l'entende.
En France, il y a un grand sport des politiques, c'est de parler à la jeunesse. Mais en réalité, c'est pas à la jeunesse qu'on parle du tout, c'est aux parents, aux seniors. On va dire, on parle aux jeunes pour s'adresser aux vieux. Donc on va parler de la jeunesse beaucoup, mais d'une façon qui correspond plus au code et à la façon d'en parler des plus âgés. Typiquement, voilà, on va dire, on va s'occuper de donner des emplois aux jeunes. Les jeunes sont au cœur de nos préoccupations, mais C'est déjà ne plus être jeune que de dire les jeunes.
À mi-mandat, la moitié des 18-24 ans accordait encore sa confiance à Emmanuel Macron, selon un sondage Elabe. Mais entre les dérapages sur le costard ou le boulot en traversant la rue, les colères suscitées par les réformes de Parcoursup et du bac, ou encore les grèves pour le climat, les motifs de mécontentement s'accumulent. Il pourrait coûter cher en 2022 à celui qui devenait il y a 3 ans le plus jeune président élu de la République française.
Elle va rester présidente jusqu'en 2025. Elle, c'est Delphine Ernotte, reconduite hier par le CSA pour 5 ans à la présidence de France Télévisions, sans vraiment de surprise. C'est pourtant la première fois qu'un dirigeant d'un groupe audiovisuel public est reconduit. Malgré un vaste plan d'économie, elle ne souffrait d'aucune contestation radicale à son encontre en interne. Pas non plus d'adversaire sérieux, pas non plus d'opposition de la part du gouvernement. Ce sera donc la continuité à France Télévisions, Benoît Grossin.
En désignant Delphine Ernotte, le CSA dit avoir fait le choix de la poursuite des transformations pour assurer, dans le dialogue et le respect des équilibres budgétaires, l'adaptation de France Télévisions à un environnement en mutation rapide. Le CSA met en avant également ses engagements pour le développement de la création, de l'offre culturelle et éducative et pour renouer les liens avec la jeunesse. Delphine Ernotte, en introduction de son projet stratégique, affirme que la crise sanitaire a tout changé et se félicite au nom du groupe audiovisuel public d'avoir permis justement à des millions de jeunes, d'enseignants et de parents de trouver en France 4 la plus grande école de France alors que la chaîne est toujours menacée de fermeture. La patronne de France Télévisions plaide pour son maintien et assure même que le mode d'expression inédit inventé par la mission éducative du service public pendant le confinement va être le socle sur lequel elle entend bâtir l'avenir en visant aussi une place de premier rang sur le numérique. Delphine Ernotte entend mettre France 5 au service de la conscience écologique et parmi les 5 priorités qu'elle se fixe pour une souveraineté culturelle, la centralienne, ancienne dirigeante d'Orange, promet de porter à 500 millions d'euros par an l'investissement dans la création audiovisuelle et cinématographique avec l'objectif de fédérer les talents français et européens en donnant libre cours à la création.
Et on termine ce journal sur cette histoire qui déchaîne l'Église espagnole et même plusieurs institutions catholiques européennes jusqu'au gouvernement polonais. C'est une histoire d'hostie qui sera examinée prochainement devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Des hosties consacrées, récupérées lors de messes, puis exposées dans une ancienne église de Pamplune en 2015 pour dénoncer la pédophilie. Une installation de l'artiste Abel Azcona, considérée comme l'enfant terrible de l'art contemporain espagnol, et une œuvre que l'Église espagnole estime sacrilège. L'histoire est racontée par Olivier Vogel.
242 hosties qui forment le mot pédérastia, pédophilie en espagnol. L'installation a été baptisée Amen et l'artiste, qui apparaissait en photo, nu avec des ailes noires tatouées dans le dos, a voulu dénoncer les abus sexuels dans l'église. Abel Azcona.
En Espagne, ce sont des milliers de cas d'abus sexuels sur des enfants et beaucoup d'entre eux sont liés à l'église catholique. Pour ce qui est de mon cas, j'ai moi-même été victime d'abus sexuels. J'ai décidé de réaliser cette installation pour dénoncer la pédophilie.
De quoi déclencher les foudres de l'église catholique espagnole et de ses fidèles, d'autant que les hosties utilisées étaient consacrées. L'artiste les avait récupérées pendant des messes en faisant semblant d'aller communier. Manifestations, pétitions, plaintes, tout a été tenté pour faire disparaître l'exposition dans les flammes de l'enfer. En vain, la justice espagnole a rejeté toutes les requêtes de l'épiscopat qui a fini par se tourner vers le Saint des Saints, la Cour européenne des droits de l'homme, pour tenter d'y faire condamner l'État espagnol, coupable selon l'Église d'avoir toléré une violation de la liberté religieuse. Nicolas Bauer est juriste au Centre européen pour la loi et la justice qui défend dans cette affaire les intérêts de l'Église espagnole.
Une hostie consacrée pour les catholiques, c'est le corps de Jésus-Christ, donc c'est Dieu lui-même, et cet artiste en a profané de manière massive. C'est une question de violation de droit à la liberté de religion des catholiques. On est en faveur du droit de critiquer les religions. En revanche, on n'est pas pour le droit d'offenser gratuitement les croyants, de lyncher toute une communauté religieuse.
Du pain béni pour Abel Azcona, car les réactions indignées font partie de sa démarche artistique.
Je considère que mes œuvres sont des actions qui ne peuvent pas se passer de réactions. Donc dans ce cas, le fait que l'Église catholique se sente dans la nécessité de me poursuivre en justice, je trouve ça parfaitement intéressant. Ces réactions sont un moyen de diffuser l'œuvre et de lui donner une visibilité plus importante.
Propos traduits par Hugo Altmaier. La Cour européenne des droits de l'homme se penchera sur l'affaire des hosties dans les prochains mois à Strasbourg.
Voilà, et concernant le ciel de ce jeudi 23 juillet, un peu plus instable qu'hier, il sera, avec ce matin une alternance de passages nuageux et d'éclaircies sur l'ensemble du pays. Cet après-midi, le temps deviendra orageux sur le sud, plus calme au nord. Les températures comptaient ce matin de 12 à 23 degrés du nord au sud. Il fera frais localement en Champagne et Picardie. Les maximales iront de 19 à 33 degrés sur le sud du pays, avec des pics à 35-36 dans le Var et le Gard.